du monde. En mai, fais ce qu'il te plaît. Vous connaissez le dicton, passons à l'application. Difficile aujourd'hui car le mois de mai commence toujours par un jour super férié, le premier. De journaux, point, les musées fermés, les théâtres relâchent. Quant à faire du shopping, vous n'y pensez pas, sacrilège. La fête du travail empêche logiquement toute frénésie d'achat. Boutique close, il faut réfréner ces pulsions consuméristes, exception faite du brin de muguet que l'on trouve à tous les coins de rue. 3 euros ce matin, 3 euros la tige. Ça calme tout de suite. Donc, le bonheur ou presse. Grasse matinée, se les rouler, bagnauder, flémarder, rêvasser, bouquiner, procrastiner. Bref, ne rien faire ou presque, ce qui est déjà toute une activité, car il faut savoir aussi résister. Sollicitations maximum, défilés en tout genre. Pour un citoyen moyen, un tant soit peu militant, c'est presque un casse-tête. Marche contre le racisme, pour les droits des femmes, pour un statut étudiant, ou tout simplement pour la défense du droit des travailleurs. Le pavé parisien est plein. Et j'oublie volontairement la marche de l'extrême droite, pas vous, pas là. Et je rajoute exceptionnellement cette année le meeting de la candidate socialiste au stade Charletti, déjà surnommé le Woodstock de Ségolène. En réponse au Sarko-show de dimanche, ce sera Moustaki contre Rick Azaray, Yannick Noah contre Hallyday. Ce sera une journée en fanfare, en espérant que le mois de mai fera ce qu'il me plaît.
Culture vive, Pascal Paradis.
Ils sont si anciens, si vieux à travers toute l'histoire de notre culture, de notre l'histoire de l'humanité tout simplement. Je crois qu'ils servent à nous apprendre ce que nous ne savons pas encore. Nous les lisons quand nous ne sommes pas encore ni expérimentés ni initiés. Et peut-être même qu'ils continuent toute notre vie à nous raconter une histoire, une très belle histoire. C'est celle de, à la fois et du bonheur et du malheur, des tourments, des passions, de tout ce qui est destructeur et de tout ce qui est fondateur dans la vie. Je crois la chose peut-être qui est la plus secrète et la plus vitale, y compris dans nos sociétés d'aujourd'hui, ce moteur de l'amour.
Un peu beaucoup passionnément à la folie, il y a la vie et les livres et dans tous les cas des rencontres uniques. Invité à Aix-en-Provence par la romancière Paul Constant, prix Goncourt en 98, quelques écrivains, savants et subtils ont passé deux journées entières le mois dernier devant un public assidu réuni dans l'amphithéâtre de l'ancienne fac de droit à raconter comment ils avaient lu des romans d'amour. Parmi eux, le Congolais Alain Mabankou qui raconta sa passion pour l'amour au temps du choléra de Garcia Marquez, Daniel Salnave qui fit de Jeanne Eyre, l'héroïne de ses rêves, ou Anne-Marie Gara, qui découvrit sur la même étagère de son enfance et dévora avec le même appétit Saint-Augustin et Delhi. Quel est votre roman d'amour préféré? Y a-t-il des romans d'hommes et de femmes, une façon féminine ou masculine de les lire et de les raconter? Force est de constater au cours de ce week-end que les écrivains hommes jouaient au galopin, quand pour les femmes, c'était une affaire sérieuse. Anne-Marie Gara.
J'ai opposé l'esprit de jeu et l'esprit de sérieux. Peut-être alors, je ne sais pas si le rire désamorce, dédramatise, mais à distance, bien sûr, toutes ces questions sensibles et que les hommes s'abritent derrière ce qu'il peut y avoir de ludique, de libertin, dans la manière d'aborder ces questions, et les femmes plus dans la, justement, libres dans leur sentimentalité, plus aptes à aborder sous un angle dramatique, ces grandes questions, voire mélodramatique. C'est-à-dire celle qui tire des larmes, celle qui tire en nous l'émotion, hein, et jusque à ces tremblements ou ces rougeurs ou ces manières presque physiologiques qu'a le sentiment de s'exprimer. Est-ce qu'il y a, oui, moi la question se pose, féminin et masculin, dans la question de la littérature sentimentale.
Vous en lisez encore aujourd'hui la littérature sentimentale?
Là, la question, c'est est-ce qu'il y a un âge pour lire cette littérature-là? Moi, je pense qu'il y a en effet une jeunesse de la lecture à ce sujet, de ce moment de l'initiation à la vie où on n'est pas encore bien expérimenté et où peut-être après, on est plus occupé à les vivre qu'à les lire. Mais je crois que j'y reviens quand même et par une espèce de respect et d'amour et d'estime pour cette littérature-là, même si elle apparaît désuète et lointaine. J'y reviens avec un amour de ce que j'ai j'ai été finalement, jeune fille, adolescente, pré-adolescente, enfant, hein, et que cette jeunesse-là en nous, je crois que aussi il faut la garder, il faut la faire perdurer pour garder à la fois comme une aptitude à accueillir, hein, qu'on perd quand même un peu. Alors, oui, oui, j'en lis de temps en temps, mais aussi à travers les grands, grands textes, hein, les grandes, grandes fresques, les grandes histoires d'amour, les grandes œuvres de la littérature qui sont liées à cette question.
Écoutez, mon petit, si je ne me trompe, il y a un moyen de vous justifier. Passez une visite médicale et faites-vous délivrer un certificat.
Un certificat de quoi?
Si vous êtes une vraie jeune fille, je vous donnerai une chance de vous rattraper.
Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
Paul Constant, quel est l'esprit de ces journées des écrivains du Sud qui ont vécu leur 5e édition cette année?
C'est demander à des écrivains de parler de leur lecture et de montrer qu'ils ont d'abord des lecteurs et combien la lecture a finalement impressionné leur talent. Moi, je crois que tout écrivain est d'abord un lecteur. Et cette expérience de lecture, il la partage avec un public sur finalement des livres que tout le monde connaît ou que tout le monde a lu. Et c'est ainsi que le public peut faire expérience commune avec un écrivain, parce qu'il est toujours difficile de partager l'expérience d'écriture, mais l'expérience de lecture, elle est commune à tous. Or, l'expérience de lecture n'est pas si différente de l'expérience d'écriture, et la plupart du temps, elle la précède. Et ces journées, les écrivains ont dit à quel point ils ont été impressionnés comme une pellicule, et ils ont raconté l'effet de la lecture sur eux, mais avec des souvenirs beaucoup plus vivants que leur propre vie, puisque la lecture est devenue leur propre vie. Et ça, il faut absolument persuader tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un trésor incroyable qui nous laisse d'une indépendance extraordinaire. Indépendance par rapport au temps vécu, par rapport au lieu vécu, une indépendance d'incarcéré, j'allais dire. Et c'est la lecture.
Oui, c'est en fait des journées pour la lecture, quel que soit le thème, parce que cette année, vous choisissez l'amour, mais j'imagine que la conclusion était la même quand l'an dernier, vous choisissiez quel est le héros préféré de ces écrivains que vous invitiez.
Au fond, le sujet importe peu. On a eu la première année, c'était comment j'ai lu Jean Giono, c'est je qui est important, hein, c'est la personnalité. Ensuite, ça a été comment j'ai lu des romans d'aventure, comment j'ai lu des contes de fées, ça importe peu. C'est une espèce de sujet basique, parce que je crois que tous les écrivains peuvent intervenir sur l'un ou l'autre sujet. Et peut-être que cette année, sur le roman d'amour, qui était peut-être moins attractif pour des écrivains intellectuels et qui ont fait finalement des constructions merveilleusement intellectuelles à partir de l'amour. Tout le monde a lu un roman d'amour ou tout le monde a cru lire un roman d'amour. Et puis on l'a vu, c'est aussi bien le roman photo que Saint-Augustin, que Don Quichotte. A priori, quand on me parle de Don Quichotte, je ne pense pas à un roman d'amour.
Paul Constant, vous, comment avez-vous lu des romans d'amour? Parce que finalement, on vous a assez peu entendu pendant ces journées.
Parce que moi, de toute façon, chaque fois que je parle de mon expérience de lecture, c'est toujours le même roman qui ressort. C'est La Princesse de Clèves. Alors, j'ai choisi La Princesse de Clèves l'année dernière comme héros préféré, mais j'aurais pu faire La Princesse de Clèves comme roman d'aventure et La Princesse de Clèves comme roman d'amour. Et c'est un magnifique roman d'amour, puisque c'est une femme qui ne sait pas ce que c'est que l'amour et qui reçoit des signes qu'elle ne comprend pas et qui la folle, il faut que sa mère lui dise ce que c'est, et elle est au centre d'une toile d'araignée amoureuse, où l'amour se déploie sous toutes les formes possibles, sous l'adultère, sur la conquête, sur la trahison, sur l'hypocrisie, sur le pouvoir. Et au fond, on a une héroïne qui renonce à l'amour par peur de l'amour, parce qu'elle a trop vu l'amour. Si j'avais eu un roman à défendre, c'était La Princesse de Clèves, mais je crois déjà, avec mon héros préféré, j'avais déjà dit tout ça l'année dernière.
Mais quand avez-vous découvert ce livre de Madame de Lafayette quand vous étiez une jeune fille? Est-ce que vous avez des souvenirs quasi physiques et matériels de cette lecture?
Moi, j'appartiens à une génération où la lecture était interdite, où on m'interdisait de lire parce que j'appartenais à une famille de scientifiques et ils pensaient que la lecture c'était du temps perdu. Et donc, ensuite, j'étais mise dans une pension où le livre était interdit et même dans la pension, il y avait un tout petit placard où on avait le droit, quand on ne sortait pas, et là, je ne sortais pas, le dimanche, de prendre un livre. Et dans ce placard, il y avait La Princesse de Clèves. Mais La Princesse de Clèves, elle était mise à l'enfer du placard. Donc j'ai dû voler une clé, enfin c'est comme ça, ouvrir le placard, lire La Princesse de Clèves une page sur deux parce que c'était pas un livre découpé. et me faire une opinion comme ça. Et donc j'avais 15 ans et j'en ai eu une impression extrêmement forte, non pas une expérience amoureuse, mais une expérience très de la misanthropie. C'est-à-dire, je crois que la lecture de La Princesse de Clèves a fait de moi quelqu'un de profondément misanthrope d'une part et assez misandre de l'autre. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que je me suis acharnée, je le lis tous les ans et je m'acharne à l'enseigner tous les ans à des étudiants étrangers. Et là, j'ai mes plus grandes satisfactions. C'est-à-dire que présenter à des adultes un livre difficile à lire, qui est un pur chef-d'œuvre, et de voir les appréhensions tomber et voir les regards se transformer et de voir ces étudiants venus de 40 nationalités différentes finalement devenir des exégètes de la passion courtoise.
Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu tapes ?
Je traduis quelque chose de l'espagnol.
Ah. Et comment dit-on en espagnol ? Je voudrais bien monter chez toi.
On dit pas question. C'est idiot comme langue, l'espagnol, hein ?
Je comprends pas pourquoi on perd du temps comme ça.
Moi non plus.
Daniel Salneuve, comment avez-vous lu les romans d'amour ?
Moi, j'ai choisi Janer sans réfléchir un instant. Quand Paul Constant m'a appelé, j'ai dit ce sera Janer. C'est déjà fait. Je l'ai choisi parce que je suis certaine que ce livre m'a accompagnée depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un signe, forcément.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Janer, chez cette héroïne donc inventée par Charlotte Brontë ?
Alors, ce qui me plaît chez elle, c'est que je l'ai sentie certainement toute jeune, sans même pouvoir le poser clairement. C'est sa volonté d'indépendance absolument farouche, son côté intrépide et aussi irréductible. Elle veut être elle-même. Elle a des conditions difficiles, elle est pauvre, elle n'est pas belle selon les critères canoniques de la beauté, elle n'est pas laide non plus. Elle n'a pas de chance aucune dans la vie, sinon celle d'être soi. Et quand elle va rencontrer l'amour, elle décidera que même pour l'amour, elle ne se sacrifiera pas elle-même. Alors c'est tout à fait enthousiasmant quand on est une jeune fille, ou même presque encore une petite fille.
Mais ce roman écrit donc en Angleterre au 19e siècle, donc en pleine ère victorienne, vous le raconteriez comme un roman féministe presque ?
Je le pense. Je pense que le féminisme, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans l'histoire. Ce sont des luttes avec des noms. Mais c'est aussi un mouvement, je dirais, qui n'est pas seulement féminin, c'est le mouvement que chaque être a pour défendre son autonomie et sa liberté. Alors les femmes ont une lutte particulière parce que la manière dont elles sont exclues est singulière et liée à leur rapport à la famille, à la maternité, qui évidemment fait qu'on les a captées ou confisquées. Mais Janer sera heureuse lorsqu'elle aimera Rochester de lui donner un fils. Simplement, elle veut d'abord s'interroger et se dire « je suis moi » à travers toutes ces difficultés, et rien ne m'empêchera de l'être.
Daniel Salneuve, vous pensez qu'un roman d'amour peut participer à l'éducation d'une jeune femme ou d'une jeune fille ?
Moi, je le crois. Je pense que Rousseau disait qu'au contraire, les romans d'amour corrompaient les jeunes filles ou les jeunes hommes. Je crois qu'ils corrompent s'ils donnent l'idée que l'amour est la solution de tout, et que l'amour est éternel, et qu'il sera forcément heureux. Là, ce serait une corruption. Mais ce que nous dit Janer, pour reprendre cet exemple, certainement l'amour sera éternel entre eux, mais il a été obtenu de hautes luttes. Il n'a pas été seulement un coup de foudre, il a été un apprentissage. Chacun a fait l'apprentissage de l'autre, a découvert que derrière son apparence, il y avait une âme d'élite. Et que cette âme d'élite, ils voudraient se consacrer toute leur vie à cette âme qui est en face d'eux.
À l'époque d'Internet, à l'époque du sexe beaucoup plus facile, est-ce que vous ne pensez pas que les romans d'amour sont un peu désuets aujourd'hui, notamment ces romans-là du 19e siècle pour les jeunes femmes d'aujourd'hui ?
Mais je pense que plus le sexe sera en apparence facile, plus on découvrira qu'en réalité il ne l'est pas, et plus on aura besoin qu'il soit sous-tendu, si j'ose dire, par l'amour. Parce que je crois que la grande découverte, c'est que, effectivement, la facilité sexuelle, l'absence d'obstacles liés à la famille, la possibilité de la contraception, tout cela a changé forcément le monde amoureux. Mais je crois que tout le monde découvre un jour ou l'autre que la consommation sexuelle est forcément décevante. Et que le lien de l'amour et de la sexualité et de la liberté, alors ça c'est vraiment... Même si on n'y arrive jamais tout à fait, il faut se battre pour ça.
Et c'est pas simplement pour les femmes ou pour les filles, les romans d'amour.
Ah, c'est pour les hommes aussi. Et je crois que si les hommes en parlent souvent avec beaucoup plus un peu d'humour, c'est parce que les hommes ont une qualité immense, c'est qu'ils ont une très grande pudeur des sentiments. Et ça, c'est très beau, c'est très touchant. Mais cette grande pudeur-là, elle cache ce besoin d'amour, mais d'un amour complet, qui aille avec l'autonomie de la personne, qui aille avec sa liberté et avec la sexualité. Vous me direz, c'est impossible. Peut-être, mais si on ne se bat pas pour ça, alors pourquoi se battra-t-on ?
T'es maladroit. Retire ta moufle.
Non, ça va aller.
Ah, t'as l'air heureux.
Ouais. Je suis bourré d'amour.
Une histoire drôle de l'homme heureux.
Moi.
C'est aussi dans un café. Ils sont assez mélancoliques, alors ils se demandent s'ils baissent assez souvent pour être heureux.
Alain Mabankou. Pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de grand roman d'amour africain ?
Tout simplement parce que j'ai comme l'impression que les écrivains africains ne sont pas encore libérés de cette espèce de charge collective qui est la leur. Ils ont l'impression que parler de l'amour ne correspond pas au discours qu'il faudrait pour libérer en quelque sorte l'Afrique. Alors qu'en tout temps, c'est toujours l'amour qui a fini par libérer les personnes quelles qu'elles soient. Les grands auteurs comme les Aragon ont parlé de l'amour en temps de guerre, les grands auteurs comme Gabriel Garcia Marquez en ont parlé, pourtant ils ont connu des dictatures en Amérique latine. Bref, le constat est tel que aujourd'hui on peut dire que nous attendons toujours le grand roman d'amour dans la littérature africaine, même si on trouve ça et là une espèce d'amour dans les livres comme L'enfant noir de Kamarala et L'amour de sa mère, ou même l'amour que le narrateur a pour la petite Marie, mais autrement dit c'est le désert total.
Mais ça vous intéresserait pas de l'écrire?
Ça m'intéresserait peut-être pas de l'écrire en tant que tel. Une commande, non. Il faut, c'est vrai, laisser les choses venir. Mais je pense que dans un livre comme Les Petits-Fils Nègres de Vercingétorix, je m'étais attelé quand même à introduire une histoire d'amour dans la guerre civile qui se passait au Congo, Brazzaville. L'amour de Gaston avec sa femme qui doit s'enfuir avec la fille Maribé. Un amour entre un homme du Nord et une femme du Sud.
Alain Mabankou, s'il n'y a pas de grand roman d'amour africain, comment vous avez découvert l'amour dans les romans?
Moi, j'ai découvert l'amour dans les romans, bon, en dehors du fait que c'était des petits passages sur des livres conventionnels et pratiques comme Le Parfait Secrétaire, mais j'ai découvert l'amour par le biais de la littérature latino-américaine, justement, en lisant entre autres L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez, Le Tunnel d'Ernesto Sabato qui parle de jalousie, une jalousie mortelle, ou même l'amour de la mère dans un livre comme celui d'Albert Cohen, Le Livre de ma mère. Donc les livres m'ont appris qu'il existait de l'amour ailleurs et que l'amour pouvait être une arme aussi de reconquête de toute une population.
C'est quoi Le Parfait Secrétaire ?
Le Parfait Secrétaire, c'est un livre dans lequel on retrouve les lettres types qui peuvent servir dans la vie quotidienne. Et vers la fin du livre, il y a justement des lettres d'amour que nous utilisions à l'époque pour pouvoir aller baratiner, c'est-à-dire draguer les filles.
Et ça vous a servi donc ?
Ça nous a servi, mais ça nous a coûté très cher parce qu'il fallait payer quelqu'un qui puisse nous guider dans cela. Et je m'en suis servi, mais à mon grand dam, puisque ce Parfait Secrétaire était un livre écrit par un Européen. Donc la plupart des déclarations d'amour contenues dans ce livre étaient destinées plutôt aux filles, disons, européennes. Et il fallait les appliquer aux filles noires. Mais nous n'adaptions jamais ces lettres aux filles noires. Nous les envoyons de la sorte. Donc quand on draguait une fille noire, eh ben, on lui envoyait une lettre adressée à une fille rousse ou blonde.
Voilà. Faut-il, Alain Mabankou, avoir lu des romans d'amour pour aimer ou pour reconnaître ce sentiment?
Je pense que non, l'amour il faut le vivre d'abord. Les romans d'amour, c'est vrai, peuvent nous inciter à quelque chose, mais les romans d'amour permettent de rêver justement l'amour, et le rêve est fondamental dans l'existence de quelqu'un. Donc la plupart du temps, les romans d'amour propulsent, donnent de l'évasion et puis nous confortent en nous disant que s'il y a quelque chose qui est universel dans le monde, c'est justement le sentiment amoureux.
Encore quelques phrases, quelques pages, quelques bêtises baiser, un peu de patience. Sur RFI, il y a les intermittences du cœur et de l'info. Donc, le journal. Et on se retrouve dans 10 minutes pour continuer à feuilleter des romans d'amour avec des écrivains comme Daniel Picouli ou Camille Laurence. Culture vive à suivre.